Bon, très souvent, on parle de l'amour de Dieu. Bien sûr, Dieu nous aime. On parle encore de sa justice. On parle assez peu de sa sainteté. Ce matin, Antoine nous a lu dans le psaume 24 « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se relèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du Dieu de son salut. » Alors ce matin, je voudrais vous parler de la sainteté de Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint ? Et c'est une question. Dieu est saint. Tout ce que Dieu approche, il le rend saint. Tout ce qui approche Dieu doit être saint. Alors c'est peut-être une réalité dont nous ne sommes pas complètement conscients quand on s'approche de Dieu pour notre culte en commun, pour notre culte personnel. On n'est peut-être pas conscient de cette extrême sainteté de Dieu. Alors, bien sûr, le fait que nous avons au moyen du sang de Jésus la liberté de nous approcher de Dieu n'enlève rien à sa sainteté. Si le sang de Christ, son Fils, ne nous purifiait pas, nous ne pourrions demeurer un instant en sa présence. Dieu est tellement saint que les Juifs ne prononçaient jamais son nom. Vous savez, le tétragramme J-W-H-W, qu'on ne sait pas prononcer d'ailleurs, parce qu'en hébreu, les voyelles ne sont pas écrites. Et donc, on ne sait pas le prononcer. On l'a traduit souvent par Jéhovah, ou plus fréquemment par l'Éternel. Lorsqu'on s'approche de lui pour lui apporter notre adoration, nos prières, pour le louer, on doit toujours être conscient de sa grandeur, de sa gloire et de sa sainteté. La sainteté, c'est un attribut divin. Dieu seul est entièrement et parfaitement saint. Alors si on veut savoir un peu ce qu'est la sainteté, c'est à lui qu'il faut regarder. Quoique notre connaissance soit dans ce domaine, comme dans bien l'autre, bien limitée. Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est les séraphins qui proclamaient ça, et c'est encore probablement les mêmes séraphins qui le proclament dans l'Apocalypse. L'Apocalypse au chapitre 4. La sainteté de Dieu, c'est sa qualité essentielle, fondamentale. Sa pureté absolue, immaculée, manifeste sa gloire rayonnante et éternelle. Or, la racine hébraïque du mot sainteté, ou saint, a deux sens. Elle peut signifier soit mis à part pour un usage exclusif, consacré, séparé, sacré par opposition au profane, mis à part pour un usage exclusif, ça me rappelle un peu le cœur non partagé que nous devons avoir. Et puis ça a une autre signification qui peut être éclat, l'idée d'une pureté absolue, la gloire de Dieu. Le mot hébreu qui signifie saint, kadosh, signifie pur physiquement, mais pas seulement, rituellement aussi, pour les juifs, et surtout moralement, spirituellement. Le Nouveau Testament emploie un terme grec qui signifie aussi parfois séparé, mis à part, comme dans Luc, Luc 2, verset 23, mais le plus souvent signifie pur. Être saint, c'est être pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un éclat absolu que rien ne vient altérer. Une lumière parfaite, sans ombre, sans espace de ténèbres. Et Dieu nous est dépeint comme parfaitement pur, saint, majestueux. Et son peuple est appelé à reconnaître sa sainteté et ses droits souverains sur lui. C'est Isaïe qui dit au chapitre 8 et au verset 13 « C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Et l'apôtre Paul, dans un texte, dans la première à Timothée, donne une idée très élevée de la sainteté de Dieu. Il nous dit « Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. » Alors on peut quand même avoir une idée assez précise de la notion d'être saint. Certains pensent qu'il suffit d'être séparé, dans le sens d'être mis à part pour une tâche, comme on l'a déjà vu. Mais il s'agit de beaucoup plus que cela. La sainteté, dans son expression divine, c'est être séparé, mais séparé du péché. Séparé du péché d'une manière absolue. Être dans un état de pureté parfaite. Alors on comprend bien que seul Dieu atteint cette perfection. Nul n'est saint comme l'Éternel. Dieu rend saint tout ce qu'il approche. C'est une notion qu'on a vue dans l'étude biblique l'autre jour. Dieu rend saint le lieu où il est. L'Éternel dit à Salomon, « J'exaucerai ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Il dit aussi à Moïse, quand Moïse va près du buisson qui ne brûle pas, c'est dans Exode 3, verset 5, Dieu lui dit « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » La seule présence de Dieu rend ce qui l'entoure saint. Et puis, tout ce qui servait dans le tabernacle ou dans le temple pour le service de Dieu était saint. C'est ce que nous dit Exode 40 et vous pourrez le relire. La parole de Dieu aussi est sainte. C'est ce que Paul rappelle aux Romains, au premier chapitre, les premiers versets. On pourrait multiplier les exemples, mais est-ce bien nécessaire? Tout ce que Dieu approche est saint. Tout ce qui s'approche de Dieu, ou tous ceux qui s'approchent de Dieu, doivent être saints. Les choses comme les hommes, et sous peine de conséquences. Le Lévitique nous dit « Tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi, je suis l'Éternel. » Et puis toujours le Lévitique, si vous vous souvenez, Lévitique 10 nous rapporte l'histoire des fils d'Aaron. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Tout ce qui s'approche de Dieu doit être saint. Et cela, ça entraîne des conséquences pour nous. L'impossibilité de Dieu à accepter le mal implique la nécessité d'une expiation. La sainteté de Dieu exige que le péché soit recouvert avant que la communion puisse exister avec le pécheur. L'expiation, le sang de Christ, ne trouve sa nécessité que dans la sainteté de Dieu. Pour pouvoir nous approcher de ce Dieu, il nous est indispensable d'être saints à ses yeux. Et nous avons tous, je pense, vous comme moi, bien conscience que nous ne pouvons y parvenir nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il est mort. Hébreux 10, à partir du verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dieu n'a pas changé. Il demandait au peuple d'Israël d'être saint. Il demande à son peuple, aujourd'hui, l'Église, d'être saint. Vous serez saints car je suis saint. Et on le lit dans le Lévitique et on le lit dans la première épître de Pierre. Dieu a toujours appelé à la sainteté ceux qu'il choisit, qu'il met à part, qu'il rachète pour être son peuple. Il les appelle à la sainteté parce que c'est le moyen de donner au monde le témoignage de ce qu'il est lui-même. Dans le Deutéronome 14, au verset 2, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Et avec l'Église, son peuple, de la Nouvelle Alliance, ceux qui ont été rachetés, qui ont été lavés de leurs péchés, Dieu a la même exigence. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tout à l'heure, on a chanté « Sa gloire se voit dans nos vies transformées ». Est-ce qu'on ne chante pas des fois des petits mensonges? Et pourtant, notre vocation, la vocation des enfants de Dieu, c'est de refléter les vertus de notre Père Céleste et entre autres sa sainteté. La réalité de nos vies, c'est qu'elles reflètent de façon bien pâle souvent les vertus de ce Père. Cependant, il faut bien qu'on prenne conscience que la grâce de Dieu ne nous autorise pas à vivre dans la souillure. Que dirons-nous donc, dit Paul aux Romains, demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La sainteté à laquelle Dieu nous appelle fait l'objet de nombreuses exhortations. C'est une vertu essentielle, fondamentale de la vie des chrétiens. Car la sainteté est la marque distinctive de ceux qui appartiennent au Dieu saint. Elle est le témoignage évident d'une vie nouvelle. Et elle provoque aussi le rejet et quelquefois la haine de la part des incrédules. Elle leur rend témoignage que leurs œuvres sont mauvaises. Et c'est pour ça qu'ils haïssent ceux qui sont saints. Jésus, avec ses disciples, a dit à ses disciples que le monde le haïssait parce qu'il rendait, par sa conduite, le témoignage que les œuvres des hommes sont mauvaises. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Et il ajoute qu'il s'en lancera de même pour ceux qui le suivent. C'est toujours dans Jean, mais au chapitre 17 cette fois. « Je leur ai donné ta parole et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Alors ça explique peut-être pourquoi la sainteté est si difficile à vivre. Parce qu'en plus de surmonter notre tendance naturelle à pécher, nous devons aussi affronter l'opposition des autres, l'opposition de ceux parmi lesquels nous vivons, que notre conduite condamne et exaspère. Pourtant, c'est à ce témoignage que Dieu nous appelle. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. C'est ça qui fait la vraie différence. Les non-croyants peuvent pratiquer de bonnes œuvres. Il y a des exemples évidents avec les associations caritatives fondées et animées souvent par des incrédules notoires. Mais ce qui leur est impossible, c'est de vivre une vie sainte. Il est normal que les enfants de Dieu se montrent secourables envers ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Il y a une exposition du sel, ça sert un peu à ça. Mais les gens du monde le font aussi. Et c'est pas ça qui marque notre différence. Ce qui fait la différence, c'est la sainteté de notre conduite, la pureté de nos vies. La sainteté est la marque de ceux que Dieu, que Jésus-Christ a rachetés. Nous sommes appelés à être saints dans le monde, comme notre Père Céleste, à l'image de Jésus, notre Sauveur, et selon la nature du Saint-Esprit qui nous habite. C'est l'objectif et la volonté de Dieu pour son Église, c'est-à-dire pour ceux qui la composent, ceux que Paul appelle souvent dans ses épîtres saints. Et notre Seigneur Jésus, c'est livré à la mort pour cela. Éphésiens 5, versets 26 et 27, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Être saint, c'est donc pas une option, c'est une nécessité. C'est indispensable pour la crédibilité de notre témoignage dans ce monde, mais aussi et surtout peut-être pour maintenir une communion avec notre Dieu, notre Père Céleste, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, et avec l'Esprit-Saint, notre compagnon de route. L'apôtre Jean écrit à ce sujet dans sa première épître au chapitre 3, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. » Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et un autre passage nous parle de l'importance d'avoir une bonne conscience pour nous approcher de Dieu. C'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors nous devons bien comprendre que Dieu veut un peuple saint, c'est-à-dire des hommes et des femmes qu'il a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé, qui marchent dans la pureté, dans la sainteté. Paul à Tite dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. La seule façon que nous ayons de vivre notre vie d'enfant de Dieu, de lui être agréable, c'est de marcher dans cette sainteté. C'est-à-dire de pratiquer la justice, de se conserver pur. Dieu ne peut pas accepter d'être uni avec quelque chose de souillé. 1 Jean 1, verset 3, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la vérité, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté, c'est des expressions qui sont semblables. Demeurer en Christ, sanctifier le Seigneur dans nos cœurs, vivre selon l'Esprit. En fait, tout ça, c'est vivre dans le monde, vivre notre vie de tous les jours, mais en se préservant des souillures du péché. Paul dit aux Corinthiens, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « achever votre sanctification » C'est pas Dieu qui nous rend ça? Cependant, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Et nous avons un impérieux besoin de confesser nos péchés pour être pardonnés. C'est la condition nécessaire pour maintenir une communion avec Dieu. Le début du passage des Corinthiens a souvent été souvent mal compris, interprété comme un appel à se séparer du monde dans notre vie familiale ou sociale. En fait, il s'agit, tout en étant dans le monde, c'est-à-dire parmi les inconvertis, de ne pas participer à leurs péchés, de nous garder des associations ou des unions dont nous ne pourrions pas maîtriser la morale. Si nous nous souillons avec les péchés du monde, ça implique que nous perdons notre communion avec le Seigneur. Et toute notre vie de prière et de foi en est altérée. Nous perdons notre paix et notre assurance devant Dieu. Les Lévites qui étaient chargés d'entretenir le sanctuaire devaient se sanctifier et sanctifier la maison de Dieu. 2 Chroniques 29, verset 5, « Écoutez-moi, Lévite. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Par lui, Dieu demeure en nous et nous sommes appelés à être un temple saint. Paul aux Corinthiens dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup d'autres passages qui nous exhortent à la sainteté. Ça ne sera pas difficile de les trouver pour vous. Par contre, ce qui sera plus difficile, c'est de les pratiquer. Mais la sainteté est la seule façon de vivre qui plaise à Dieu et qui le glorifie. Et le manque de sainteté nous prive de communion et attriste le Saint-Esprit. Or, il nous est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Je crois que la parole que l'Éternel a adressée à son peuple par le prophète Ésaïe est valable aussi pour nous aujourd'hui qui sommes son peuple. Ésaïe disait « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour vous, pour sauver, et son oreille pas trop dure pour entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. » Alors pour conclure, je voudrais retenir deux choses essentielles. Recherchons la sanctification, efforçons-nous de vivre dans la sainteté. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puis la deuxième chose, lorsque nous péchons, ne restons pas dans notre souillure. Confessons nos péchés en demandant sincèrement le pardon de Dieu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. On va prier. Père, tu nous appelles à te ressembler. Tu partages avec nous la sainteté. Mais Seigneur, tu vois comme souvent nous sommes loin de réaliser ce que tu veux de nous. Et Seigneur, nous voulons t'en demander pardon. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi pour nous aider à avancer dans ce chemin. Ce chemin qui nous est difficile, mais tu es là pour cela et tu nous l'as rappelé en introduction. Tu es notre berger, c'est toi qui nous conduis, Seigneur. Amen.